troisième journée des Assises internationales du journalisme à Tours. Et nous sommes ici avec Fabrice Arfi, qui a gagné un prix de la littérature pour un livre qui était écrit en collaboration avec plusieurs personnes, plusieurs journalistes, qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors, ma première question, ça serait, vous parler beaucoup sur les nouvelles censures dans le journalisme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi c'est nouveau et en quoi cette nouveauté est aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. En fait, on a utilisé cette expression des nouvelles censures pour trancher un peu avec l'image d'épinal, entre guillemets, qu'on pourrait avoir de la censure très verticale de l'ORTF avec le ministre de l'Information Alain Perfit qui prenait son téléphone pour dire ce qu'il devait y avoir ou pas y avoir dans le journal télévisé, ce qui a réellement existé en France. Aujourd'hui, on a voulu décrire un certain nombre de nouvelles censures qui sont insidieuses, parfois même insidieuses comme l'époque, elles en sont pas moins extrêmement dangereuses, voire plus dangereuses que la bonne vieille censure à l'ancienne. Et en fait, l'idée de ce livre que j'ai co-dirigé avec Paul Moreira, il y a 16 journalistes au total qui ont co-signé dedans, qui de la presse écrite, d'Internet, de la presse locale, de la radio publique, Benoît Colomba par exemple, de France Inter ou de la télévision. En fait, on a voulu raconter à la fois ce que peut être la coulisse de nos enquêtes et ce que ça révèle de ces nouvelles censures qui sont très diverses. Ça peut être la surveillance, l'espionnage, la menace, le harcèlement judiciaire, le contournement du droit de la presse pour la museler. Mais ça peut être aussi les pressions commerciales, le lobbying, le pouvoir extravagant du monde de la communication. Ça peut être la difficulté de faire vivre une information locale indépendante et pugnace. C'est la pauvreté culturelle et démocratique de notre pays sur l'accès aux documents administratifs. Voilà, donc nous avons voulu mettre tout ça ensemble parce que, mis bout à bout, ça raconte quelque chose de notre pays.
Et justement, aujourd'hui, nous sommes en France qui est en situation d'état d'urgence. Est-ce que le métier de journaliste a changé depuis que l'état d'urgence est annoncé ?
Le métier de journaliste ne change jamais en tant que tel. Précisément, notre métier consiste à, quel que soit le contexte, d'essayer d'éclairer modestement les citoyens de ce qui leur appartient, c'est-à-dire les informations d'intérêt public, qui se fassent juges eux-mêmes de ce qu'est leur époque, leur vie, leur monde, leur république, leur démocratie, leur dictature. Voilà. C'est ça notre boulot. Bon. Évidemment, dans un moment comme le nôtre, qui est un moment difficile, triste, dreux, mais qui est un moment aussi inquiétant, vous avez parlé de l'état d'urgence, on a d'autant plus besoin de journalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où il ne faut pas se laisser embarquer par les stratégies politiques, par les décisions politiques qui ne sont pas forcément de la stratégie, par l'émotion qui est évidemment et qui nous saisit tous avec l'année qu'on a passée en 2015, pour ne pas oublier de faire notre métier. Et on voit à la faveur de l'état d'urgence qu'il y a eu une communication politique sur le dos d'un changement législatif petit à petit, d'une perte de l'état de droit pour l'état de police, qui requiert le journalisme de dire vraiment quelle est la réalité des enquêtes antiterroristes, quelle est la réalité de la faillite de nos services de renseignement sur la lutte antiterroriste. Non pour accuser les services de renseignement, ils ont un travail extrêmement difficile, ils sont responsables de ce qui se passe. Les responsables sont évidemment les djihadistes obscurantistes et totalitaires qui nous attaquent. Mais pour autant, on doit pouvoir documenter ce qui se passe, quels ont été nos manquements, de ce que les États-Unis ont fait après le 11 septembre. Ils ont regardé quels ont été les manquements des services de renseignement pour progresser. Voilà. Et ben, le journalisme, il peut aider à tout cela. Et c'est vrai que dans ce moment-là, il ne faudrait pas que petit à petit, on s'habitue à de nouvelles lois qui certaines sont considérées de l'ONU jusqu'au milieu activiste comme liberticides. Je pense par exemple à la loi renseignement pour empêcher le journaliste d'éclairer le citoyen sur des moments qui nous appartiennent et qui n'appartiennent pas qu'à la classe politique.
Bonjour, j'aimerais moi revenir un petit peu sur une des histoires dont vous parlez notamment dans votre livre, donc le secret des affaires. J'aimerais savoir un petit peu si vous pouviez développer cet aspect-là sur justement le dernier projet de loi.
En fait, le secret des affaires, c'est même l'origine de ce livre. C'est-à-dire que quand on avait découvert très tardivement que dans la loi Macron avait été glissé en commission au Parlement, c'était autour de minuit, je crois, un amendement sur le secret des affaires, donc qui créait un nouveau droit juridique pour les entreprises qui pouvaient protéger à peu près ce qu'elles voulaient de leur activité pour empêcher le regard extérieur et notamment celui des journalistes. Et si les journalistes venaient à enquêter d'un peu trop près sur des activités du monde de l'entreprise, on pouvait risquer même la prison. Et donc ça avait fédéré au départ, c'était un peu comme dans le CID, quoi. Il y avait Mediapart et Cache Investigation qui s'étaient retrouvés parce qu'on aime bien se tenir chaud, on s'aime bien, on est copains. Mais très vite on a été des centaines par un prompt renfort de journalistes, ça allait vraiment, c'était tout le monde, hein. La presse audiovisuelle publique, privée, de BFM, France Inter, tous les journaux, Le Monde, Libé, etc. Bon. Et on a réussi par un bon lobbying, à faire retirer cet amendement qui était très dangereux. Et les parlementaires qui l'avaient glissé dans la loi n'avaient même pas pris le temps de discuter avec les journalistes. Moi, je ne suis pas contre le secret. Bien sûr qu'il faut du secret en démocratie, mais encore faut-il qu'il soit bien défini et qu'il soit contrôlé. Le problème, c'est que trop rarement en France, il est mal défini et il n'est pas contrôlé. Donc ça autorise tous les abus. Et le secret des affaires comporte plusieurs dangers qui sont intacts, puisque s'il a été retiré de la loi française, il revient aujourd'hui par la loi européenne. Ça va être voté en avril, donc c'est devant nous. Et la loi, même s'il y a eu quelques avancées à notre demande auprès du Parlement européen, la directive qui est en préparation demeure très dangereuse pour la liberté d'informer et pour les sources, les lanceurs d'alerte. Puisque le secret des affaires tel qu'il est défini aujourd'hui par l'Union européenne, suite à un immense lobbying des multinationales, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui relève du secret des affaires. La définition est très floue. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui décident de dire ce qu'il relève ou non du secret des affaires. Les sources et les lanceurs d'alerte sont mal protégés. Et on se retrouve dans une situation juridique où cette nouvelle loi va permettre aux grandes entreprises d'éventuellement empêcher la publication d'une enquête avant même qu'elle soit diffusée, alors que jusqu'à maintenant, la règle, c'est qu'on peut être poursuivi, et bien sûr qu'on peut être poursuivi, qu'on a à répondre de ce qu'on écrit, mais une fois que c'est publié, ne pas faire du juge une sorte de rédacteur en chef de la nation. Hein. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui est extrêmement dangereux, avec en plus, évidemment, vous imaginez, pour des grandes sociétés, je ne sais pas moi, Total, les laboratoires pharmaceutiques, le monde pétrolier, l'immobilier, eux, ils ont les moyens de harceler judiciairement des petits groupes de presse, des petites sociétés de production audiovisuelle qui enquêtent. Et donc, avec le secret des affaires, que serait devenue l'affaire du Mediator ? Que serait devenue les affaires sur l'optimisation fiscale des grandes entreprises? Bon, est-ce que ça relève du secret des affaires? Que serait devenu un certain nombre d'affaires sur les ventes d'armes? Est-ce que ça relève du secret des affaires des entreprises? Bon, donc voilà, on est mal défini, le secret est mal défini, il est mal contrôlé, les journalistes sont dans la loi en façade protégée, mais les lanceurs d'alerte ne le sont pas. Un journaliste sans source, c'est pas de journaliste.
En parlant de ce secret des affaires, est-ce que vous auriez peut-être quelques exemples que vous avez connus à nous donner, où vraiment le secret des affaires aurait pu, vous avez cité là quelques grandes affaires, ouais, où le secret des affaires pourrait être remis en cause par cette directive européenne à voter en avril?
Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on enquête sur de l'argent sale lié à des contrats d'armement, ce qu'on avait fait par exemple dans l'affaire Karachi. Hein. Avant d'écrire un article, évidemment, on va voir toutes les personnes, y compris celles qui sont en cause. Donc imaginez la scène, avant de publier notre enquête, on va voir les gens de l'entreprise d'armement qui a versé des commissions occultes à des réseaux d'intermédiaires proches du monde politique. Voilà. Et on leur montre les documents en leur disant, écoutez, voilà, vous avez fait ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Avec le secret des affaires, ils ont la liberté de dire, attendez ça, vous êtes en train de violer le secret des affaires. Les commissions occultes, c'est notre secret commercial. Je ne voudrais pas que notre concurrent sache comment commercialement nous faisons pour avoir des contrats. Je ne vous réponds pas. Mais non seulement je ne vous réponds pas, mais en plus je vais saisir le tribunal pour empêcher la publication de votre enquête à venir. Voilà concrètement. Et là, on se retrouve avec une décision qui est entre les mains d'un juge, une absence de jurisprudence puisque la loi est nouvelle. Et donc on est à la merci de la décision d'un magistrat qui va se faire le rédacteur en chef, non pas de ce que nous avons écrit, mais de ce que nous pourrions écrire. Et ça, c'est intolérable. Le journaliste doit assumer ce qu'il écrit. la justice n'a pas à intervenir avant, mais après, oui, parce que bien sûr qu'on doit répondre de ce qu'on écrit, mais on répond de ce qu'on écrit dans le cadre d'un droit en France qui existe depuis 1881, qui est le droit de la presse. Nous, on n'est pas le receleur de la violation d'un secret. C'est pas possible que ce soit le secret défense, le secret de l'instruction, le secret des affaires ou je ne sais quoi. Pour une raison très simple, c'est que le métier de journaliste consiste, entre autres, à obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner. Hein, c'est pour ça qu'on a créé le secret des sources. C'est pas pour protéger les journalistes, c'est pour protéger les sources qui prennent des risques. Et c'est à nous de vérifier si c'est vrai et si c'est d'intérêt public. Et là, le juge, c'est lui qui décide, une fois qu'on a écrit, si ce qu'on a écrit est vrai, d'intérêt public, et si nous l'avons fait correctement. Et bien sûr que le journaliste n'est pas au-dessus des lois et doit être condamné s'il se comporte mal de ce point de vue-là.
Et alors, qu'en est-il exactement de la protection des sources par rapport à cette nouvelle directive européenne, justement ?
Bah, c'est pas clair, parce que la directive est rédigée, ils disent que, grosso modo, on peut révéler des informations si on révèle une fraude, quelque chose d'illégal ou un mauvais comportement. Mais qui décide de ça ? Comment voulez-vous que, quand on révèle une information, qu'on sache avant même qu'elle ait été jugée si elle est illégale ou pas ? On n'est pas juge, nous. Quand on révèle les commissions occultes sur les marchés d'armement avec M. Takiedine, Sarkozy, Léotard, Balladur sur Karachi, c'est pas jugé, d'ailleurs c'est toujours pas jugé par un tribunal comme illégal. Des magistrats le pensent et ils se sont saisis de nos révélations pour faire des enquêtes. Mais au moment où nous, on le diffuse, personne n'a dit formellement à la justice que c'était illégal. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas pu le faire à l'aune de ce qu'est la rédaction aujourd'hui du secret des affaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les sources, elles ne sont pas suffisamment protégées pour pouvoir alerter le grand public par le truchement des médias sur des faits qu'elles estiment contraires à, je ne sais quoi, la loi, le règlement, l'éthique, la morale. Et le monde ne se sépare pas entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Je vous donne un exemple. L'optimisation fiscale, l'affaire LuxLeaks. Hein, c'est pas illégal, l'optimisation fiscale. C'est bien le problème. C'est comment, légalement, on organise l'appauvrissement des nations avec des conventions fiscales qui sont absolument honteuses et qui échappent à la richesse des nations. Imaginez que certaines grandes multinationales, je crois que c'est Google, vous vérifierez, qui n'a payé que 5000 euros d'impôts en Angleterre. 5000 euros sur une année, alors qu'ils font des milliards de bénéfices. Bon, donc mais ça, ils le font légalement. Bon, c'est pour ça qu'il y a des commissions d'enquête parlementaires. Elles disent que c'est un immense problème, l'optimisation fiscale. Et pourtant, c'est légal.
J'avais une question à poser sur l'agglomération lyonnaise. Vous avez beaucoup vécu à Lyon. Comment ça se passe, les enquêtes à Lyon ? Et pourquoi il n'y en a pas autant que ça ?
Mais je ne sais pas. Lyon est un triangle des Bermudes et parfois un mystère. On peut se rappeler que dans les années 80, Lyon avait été un laboratoire de la presse nationale pour essayer une nouvelle aventure de presse locale, puisqu'on avait eu Lyon-Figaro, où j'ai commencé à travailler, Lyon-Libération, il y a eu Le Monde Rhône-Alpes, L'Express Rhône-Alpes, L'Humanité Rhône-Alpes. Mais peut-être que ces journaux étaient arrivés avec une vision très jacobine et très parisienne, sur un mode « Nous, Paris, on va vous expliquer comment marche la vie à Lyon et le journalisme ». Ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre et ça n'a pas marché. Bon. Moi, je ne suis pas arbitre des élégances et je ne suis pas juge de la qualité du travail de mes confrères à Lyon. Mais je suis toujours surpris de constater que, ce qui est quand même la deuxième ville de France, on a l'impression qu'elle n'est pas traversée par les mêmes problématiques, les mêmes problèmes qui peuvent se poser partout ailleurs en France et même dans le monde. On est dans une société mondiale, internationalisée. Lyon n'est pas une île qui ne serait pas traversée par les problèmes d'optimisation fiscale, de fraude fiscale, de corruption, de conflits d'intérêts, qui sont les domaines que je connais un peu, mais tous les autres. Bon, et donc, je ne saurais pas comment expliquer ça. Et encore une fois, je ne veux pas donner du tout l'impression de donner des bons ou des mauvais points. Je n'ai aucune compétence pour ça, mais je reste persuadé qu'il y a à Lyon comme ailleurs en France une immense révolution à mener de la presse locale et d'arrêter de considérer que ce qui est local serait moins noble journalistiquement que ce qui est national. n'y a pas de différence. Et donc, bien sûr qu'il faut déchaîner des bataillons d'enquêteurs pour raconter aux Lyonnais ce qu'est la réalité de la vie publique lyonnaise. Mais c'est valable pour les Nantais, pour les Strasbourgeois, pour les Grenoblois, pour toutes les villes, pour partout, les campagnes, c'est la même chose. Le problème, et nous le racontons d'ailleurs dans Informer n'est pas un délit, c'est qu'aujourd'hui, les localités, les grandes villes sont devenues des baronnies, avec des élus qui restent des décennies à leur poste, qui créent des liens de dépendance politique, économique, avec des monopoles de quotidien. À chaque fois, il y a un quotidien dans une grande ville. C'est normal, ça ? Normalement, il devrait y avoir le pluralisme dans une démocratie. Et donc, à la baronnie politique se greffe une baronnie médiatique où se crée une sorte de huis clos et d'entre-soi qui n'est pas sain. C'est un écosystème qui n'est pas sain pour faire émerger du journalisme, au bon sens du terme, agressivement indépendant.
Et aujourd'hui, j'aurais aimé un petit peu connaître, alors vous en avez parlé, mais votre point de vue un petit peu sur le développement, on va dire, d'une presse plus d'investigation au niveau local, car c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a un an et demi aux Assises, il en avait été question également de cette presse d'investigation au niveau local dans l'ensemble des territoires de France. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu plus développer sur ce point ?
Je pense qu'on se trompe de point de vue, de focal, pour une raison très simple, c'est que vous avez parlé de la presse d'investigation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le journalisme d'investigation, ça n'existe pas. Il n'y a pas de journalisme d'investigation, il y a du journalisme, point. Il y a du journalisme d'information et du journalisme de commentaires, voilà, et qui d'ailleurs peuvent parfois se rencontrer. Mais moi, je ne fais pas de différence. C'est la seule différence que je fais entre l'information et le commentaire, mais... C'est une erreur, c'est même un leurre professionnel que de considérer qu'il devrait y avoir dans une ville, dans une rédaction, dans un pays, quelques journalistes qui feraient de l'enquête. Je veux dire, à partir du moment où vous cherchez une information, que vous ne recopiez pas un communiqué de presse ou que vous ne satisfaisez pas de la parole publique officielle, que vous allez chercher cette information, que vous la vérifiez, que vous la contextualisiez, que vous l'historicisiez, que vous la confrontiez, que vous la publiez, vous l'assumiez, y compris devant les tribunaux, vous faites de l'information. Le pire ennemi du journalisme, c'est la communication. Ça a l'odeur du journalisme. Ça donne l'impression que c'est le réel. Mais ce n'est pas le réel. La communication, c'est un dérivé de la publicité. Hein ? Le journalisme, c'est autre chose. C'est les informations d'intérêt public qui nous intéressent tous, qui nous appartiennent à nous tous, citoyens. Quelles que soient les conséquences que ça peut avoir pour les institutions, pour certaines personnes... Encore une fois, nous devons le faire en responsabilité. Mais notre métier, c'est d'informer sur ce qui se passe. Ce n'est pas d'accompagner la parole de ceux qui ont déjà la puissance de la communication. Le journaliste n'est pas l'accoucheur de bas en haut. Le journaliste est celui qui, au nom des préoccupations citoyennes qui sont diverses, contradictoires, parfois dans la polémique, dans le pluralisme, qui interroge ce monde qui nous représente. Le monde politique, le monde de l'entreprise, le monde culturel, voilà. Et donc, cette logique-là, qui est une pure logique journalistique, elle doit habiter toutes les rédactions de France. Et si on a, je crois, cet ADN-là, ce logiciel-là, eh bien alors, des histoires, des affaires, des enquêtes naîtront partout.